Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
On va continuer le message sur l'obéissance.
Et
ce matin, j'aimerais partager avec vous à propos de l'obéissance de Jésus. J'étais en train de penser à cela ce matin. Et vraiment, il y a une chose que j'ai à cœur de dire, c'est que la vraie raison de l'obéissance, c'est la victoire. Parce que nous sommes dans une guerre, amen. Nous sommes ici sur cette terre dans une guerre. Tant que Satan n'aura pas été jeté dans le lac de soufre et de feu, nous serons dans une guerre.
Amen.
Et la raison pour laquelle nous devons obéir à Dieu, c'est pour conquérir, voir le royaume de Dieu progresser, remporter des batailles. Parce que la guerre, c'est Jésus qui l'a remportée. Ça, c'est la vraie raison de l'obéissance. Si Dieu veut que nous obéissions à ses directives et à sa parole, ce n'est pas pour nous déranger. Dis à ton voisin, ce n'est pas pour te déranger.
Ce n'est pas pour te déranger.
Amen. Simplement, il sait quel est le chemin sur lequel nous pouvons marcher. Et il sait aussi quels sont les autres chemins qui sont remplis de dangers et qui parfois peuvent produire la mort. Donc, quand on étudie un peu la vie de Jésus, on voit que vraiment un des traits de caractère de Jésus a été l'obéissance, du moins dans ses actions, dans son caractère, dans son cœur aussi. Et c'est son obéissance qui lui a permis de vaincre le diable.
Amen.
Amen. Parce que Jésus a quitté le ciel, il est venu sur cette terre. Et le but, c'était de vaincre le diable et de nous racheter. On va lire ce verset de Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 8.
Hébreux chapitre
5, verset 8. Qui nous dit, bien qu'il soit fils, bon, il a appris, on va commencer la phrase un peu avant, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ça nous montre quoi? Que le fait d'obéir va produire obligatoirement des souffrances. Parce que quand on obéit à Dieu, on va dans une certaine direction.
Et
sur ce chemin, obligatoirement, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans une guerre, on va trouver des obstacles. On va trouver des ennemis. Amen.
Amen.
Mais donc l'obéissance produit la souffrance. Donc, comme je vous le disais, l'obéissance produira de la souffrance. Mais la souffrance n'est pas la finalité. Amen.
Amen.
La souffrance n'est pas la finalité. L'obéissance va produire un résultat. Quand on obéit à Dieu et que l'on fait sa volonté, cela va produire un résultat. Et c'est ce que l'on voit dans la vie de Jésus. Jésus a obéi au Père en toutes choses et ça a produit un résultat,
bizana,
le salut pour tous les hommes,
bizana,
la guérison, la délivrance, beaucoup de choses qui ont été le résultat de l'obéissance de Jésus, l'héritage que nous avons en Christ, la position de fils et de fille, le fait que nous ayons retrouvé notre dignité. Donc il y a eu un ordre, il y a eu une obéissance, et ici, il y a eu un résultat. Entre les deux, il y a eu un moment ou des moments de souffrance. Il faut savoir aussi une chose, c'est que si l'obéissance produit de la souffrance et amène un résultat, la désobéissance produit également de la souffrance. La désobéissance produit la destruction. Nous avons vu récemment dans la vie de Moïse, quand il a désobéi à Dieu, il a été puni pour sa désobéissance. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Et un certain nombre de personnes aussi dans l'Ancien Testament ont désobéi à Dieu d'une façon ou d'une autre. Et ça a produit des résultats catastrophiques. Amen. La désobéissance est équivalente au péché. Et le péché, vous savez comme moi, amène de la destruction. Et au final, nous n'héritons pas des choses que Dieu nous avait promises. Donc ce matin, comme je vous le disais, je veux parler de Jésus. Et nous devons voir ensemble de quelle façon Jésus a obéi au Père. Comment est-ce qu'il a pu obéir? Quelles ont été ses priorités? Comment est-ce qu'il a géré les événements, les choses de sa vie? On va voir quand Jésus avait 12 ans, c'est à ce moment-là, en Luc chapitre 42, il y a un événement particulier. Luc chapitre 2, verset 46. On voit que Jésus avait un appel. Amen. Et son appel, bien sûr, c'était de marcher sur cette terre, enseigner la parole, guérir les malades, chasser les démons et à la fin de sa vie offrir sa vie en sacrifice. Et quand on lit ce passage, on voit que dès son jeune âge, Jésus savait qu'il y avait quelque chose de particulier à propos de sa vie. Donc tous les ans, les parents de Jésus vont à Jérusalem à l'occasion de la Pâque. Et quand Jésus a 12 ans, il monte à Jérusalem avec ses parents. Et là, il va dans le temple. Il s'entretient avec les sacrificateurs. Les parents, pensant qu'il était avec certains de leur parenté, sont repartis. Et après 3 jours de chemin, ils réalisent que Jésus n'est pas avec eux. Donc, dans l'affolement, ils retournent à Jérusalem, ils cherchent Jésus partout, et finalement ils vont le trouver dans le temple. On va lire ensemble à partir du verset 46. Luc 2, chapitre 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen.
Amen. Hashize iminsi itatu bamubona mu rusengero yicaye mu bigisha hagati abumva kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ibyo abishura. Bamubonye baratangara, nyina aramubaza ati mwana wanje niki cyatumye utugirira utyo? Urabona twe na so aho twakurondereye tubabaye. Arababaza ati niki cyabateye kundondera? Ntimwari muzi yuko nkwibikwiye komba kwa data? Ntibamenya iryo jambo ababwiye. Amanukana nabo aja I Nazareti yamabumvira. Nyina bika ayo majambo yose mu mutima wiwe. Kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu.
Ce n'est pas dit expressément ici dans le texte.
Mais
il faut savoir que l'âge de 12 ans, c'était l'âge pour un jeune garçon d'être spirituellement considéré comme adulte. Alors que l'âge légal de l'adulte, de la majorité, non pas spirituellement, mais naturellement, était de 30 ans. Et on suppose que Jésus pensait qu'il était adulte spirituellement et qu'il était temps pour lui de commencer son ministère.
Et
je vous assure que ce ne sont que des suppositions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jésus s'est retrouvé dans le temple en train de parler avec les docteurs de la loi. À ce moment-là, on se rend compte que Jésus savait exactement qui il était, puisqu'il dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». À l'âge de 12 ans, Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Et il aurait pu avoir ce genre d'attitude vis-à-vis de ses parents. Et ce genre d'attitude qu'il n'a eu en aucun cas, d'aucune manière. Il aurait pu venir avec de l'orgueil, avec de l'arrogance. Vous savez, on voit cela assez régulièrement aujourd'hui. Les enfants qui s'imaginent qu'ils savent mieux que leurs parents, qui résistent, qui ont de l'orgueil dans leur cœur. Jésus aurait pu avoir cette attitude sachant qui il était. Sachant que ses parents, c'était que de pauvres gens. Parce que je vous assure que charpentier, ce n'était pas un excellent métier. C'était pas un mauvais métier, mais ce n'était pas excellent. C'était comme menuisier, un métier qui permet de gagner sa vie, mais qui n'amène pas quelqu'un au sommet de la société. Et Jésus aurait pu avoir ce type de pensée vis-à-vis de ses parents. Ces gens-là, vraiment, ils ne comprennent rien. Ils me fatiguent. Ils ne savent pas qui je suis. Moi, Jésus, le Fils de Dieu venu en chair. Non seulement ils ne comprennent rien, mais en plus, ils osent venir me chercher parce que ils pensent qu'ils savent mieux que moi. Et ils m'empêchent là de faire mon travail. Ça, c'est ce genre de réaction que l'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Et malheureusement aussi parfois parmi les chrétiens. Ils savent mieux que les autres. Ils savent qui ils sont. Si on veut marcher dans l'obéissance comme Jésus a marché dans l'obéissance, on doit marcher dans l'humilité. Amen. L'humilité, c'est quelque chose de très important si on veut réussir. Parce que si je vous enseigne à propos de l'obéissance, c'est pour une raison précise. C'est pour amener chacun d'entre nous dans une dimension plus grande de la vie de Dieu, de sa gloire et de sa puissance. Amen.
Amen.
Ce n'est pas pour vous ennuyer, c'est pour vous montrer un chemin de victoire, un chemin de puissance, un chemin de gloire. Donc, si nous n'avons pas au-dedans de nous de l'humilité, nous penserons que nous savons mieux que X, Y ou Z. Nous pensons que nous savons mieux que les autres, que nous sommes capables de mieux faire, d'aller plus loin, de faire plus grand. Et quand il y a cet orgueil dans le cœur de quelqu'un, il n'est pas prêt à obéir. Vous savez que les gens orgueilleux n'obéissent à rien. Ils n'obéissent à personne. Ils se permettent de dire « Moi, je suis au-dessus de ça ». Vous savez, il y a eu, il y a des années de cela, un réveil de guérison dans lequel il y avait beaucoup de guérison, beaucoup de miracles, beaucoup de choses extraordinaires. Il y a certaines personnes que Dieu a utilisées dans ce temps et qui, au bout d'un moment, ont commencé à dévier parce qu'ils n'ont pas su garder leur cœur humble et obéissant à Dieu. Et de ce fait, ils sont morts prématurément. Et certains osaient se permettre de dire, maintenant, avec le niveau d'onction qu'il y a dans ma vie, je peux me permettre de vivre dans certains péchés, ce n'est pas grave. Voyez l'orgueil et l'arrogance qui montent. Et ces personnes sont mortes. Elles sont mortes prématurément. Parce que quand on ne garde pas son cœur humble et obéissant à la parole de Dieu, parce que nous devons comprendre qu'il y a une parole de Dieu pour les chrétiens, et que c'est la même parole pour les serviteurs de Dieu, que c'est la même parole pour les évangélistes, c'est la même parole pour ceux qui évoluent dans de grands ministères. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a une seule et même parole. Et nous devons faire vraiment attention d'apprendre à garder nos cœurs humbles et savoir que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Et
s'il
nous a choisis, c'est vraiment par pure grâce. On voit l'humilité de Jésus. Jésus n'est pas en train de dire à ses parents, vous ne comprenez rien. Il n'est pas en train de leur dire, vous ne savez pas qui je suis au fait. Il était juste étonné que ses parents ne comprennent pas. Mais il est retourné avec eux. Il était soumis à ses parents. Lui, le Fils de Dieu. On parle d'obéissance. Et j'aimerais définir une chose avec vous pour ce qui concerne l'obéissance. Ce n'est pas faire quelque chose parce qu'on est d'accord de le faire. Amen.
Amen.
Il y a une notion de soumission dans la vraie obéissance. Je me rappelle quand nous étions étudiants à l'école biblique, il y avait un professeur qui était là et qui enseignait dans ce sens-là. Et moi, ça m'a vraiment parlé au cœur. Parce que comme j'étais encore nouvellement convertie, je pensais que inévitablement, quand on nous demandait de faire quelque chose, un responsable spirituel qui demande de faire quelque chose, obligatoirement, il demande la bonne chose. Moi, je pensais que les pasteurs ne se trompent jamais, qu'ils ont toujours raison. Parce que j'étais nouvellement convertie encore à cette époque-là. Et j'avais quelque part une façon d'idéaliser. Et ce professeur, parfois il nous avait dit d'ailleurs une fois, vous savez, il y a des fois je fais des choses parce que je sais que je dois obéir et que je dois me soumettre. Et parfois, il m'arrive de ne pas être d'accord et de me dire, si c'était moi, je ferais les choses autrement. On ne fait pas les choses, on n'obéit pas juste parce qu'on est d'accord.
Amen.
Amen. On obéit parce qu'on sait qu'on doit le faire.
Donc,
dans l'obéissance, il y a de l'humilité, il y a aussi de la soumission. Et la soumission n'a rien à voir avec « je suis d'accord, ça m'arrange ». J'aimerais qu'on continue à regarder le cœur de Jésus dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 5. Je vous assure que c'est un chemin qui pourra nous amener très loin si nous l'empruntons. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen.
Amen. Mugire wa mutima wari muri mwebwe, wari muri Kristo Yesu. Ubonaho yarasangaga ishusho y'Imana, niyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acikusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha rya zina rirenge ayandi mazina yose.
Ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est que Jésus a choisi. Les choses ne sont pas venues par hasard.
Mais
Jésus a fait un choix. Il a pris une décision. Il a choisi d'obéir. Il s'est rendu obéissant. Vous savez, il y a parfois des choses dans la vie qui vont venir pour nous fatiguer ou pour nous décourager. Quand nous prenons une direction, on va trouver parfois de l'opposition, trouver des gens qui nous prêtent des sentiments que nous n'avons pas, qui pensent de nous certaines choses qui sont complètement fausses. Et au bout d'un moment, on peut se dire, bon, puisque c'est comme ça, moi je préfère laisser tomber, je suis en train de perdre mon temps. Et c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Amen. Mais une chose qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout, c'est de prendre une décision, la décision de vous rendre obéissant. Et quand on décide de se rendre obéissant, on reste sur le chemin. Quoi qu'il arrive ou quoi qu'il n'arrive pas. Et ça demande de prendre une ferme décision. Parce que je vous assure que Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il aurait eu toutes les raisons de laisser tomber, d'abandonner. Parce qu'il a subi énormément de pression lorsqu'il était sur cette terre en train d'exercer le ministère. Il parle de l'amour du Père. Il accomplissait des miracles. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Des insultes. On le traite de démon.
bakamwita
umudayimoni. On lui dit c'est par Belzébul que tu accomplis ces miracles.
Ibyo bitangaza bikoreshwa na Belzébul.
Il trouve de la jalousie, de la méchanceté de la part des gens religieux de son époque. Il trouve des moqueries, tout un tas de choses semblables. Et ce n'est pas arrivé une fois ni deux fois, c'était continuel. Il trouve que ses disciples ne comprennent rien à rien. Sont tout le temps en train de se disputer, en train d'être en compétition les uns avec les autres. Et quand Jésus leur explique des choses spirituelles, ils ne comprennent rien. Il avait de quoi laisser tomber et de dire, je perds mon temps là. Puisqu'on ne veut pas de moi, puisqu'on ne veut pas m'écouter, autant rentrer à la maison. Mais Jésus s'est rendu obéissant. Il a pris une décision. Il a entendu le plan du Père qui était de sauver l'humanité. Il a reçu des ordres et des instructions du Père et il a décidé de quitter le ciel, de se dépouiller de sa gloire, de sa toute-puissance, de son omniprésence, de son omniscience. Il s'est humilié, il s'est rendu semblable aux hommes et pas semblable au roi, mais semblable au serviteur. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La parole de Dieu nous dit jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Dieu n'a jamais planifié de piétiner, de faire mourir Jésus, de l'écraser, ni de l'amoindrir. Mais c'était le seul chemin, écoutez bien, c'était le seul chemin qui menait à la victoire. Et Jésus le savait bien. C'était vrai pour Jésus. C'est tout aussi vrai pour nous. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, on est tout le temps en train de se bousculer. On est tout le temps en train de jouer des coudes pour essayer d'arriver le premier, de se distinguer des autres, d'être au-dessus des autres. On est tout le temps en train de se battre pour faire arriver les choses. Dans le domaine spirituel, c'est exactement le contraire. S'humilier, se dépouiller, se rendre obéissant, accepter un chemin de souffrance pour arriver à un but et un résultat, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et Dieu n'a envie d'écraser, d'amoindrir et d'humilier personne. Sinon, ça serait en contradiction avec sa nature. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a donné la liberté de choisir, de décider. Il nous a créés pour que nous régnions sur les œuvres de ses mains. Mais tant que cette guerre ne sera pas terminée, nous devons décider afin de pouvoir être efficaces, de nous rendre obéissants, comme Jésus l'a fait. J'aimerais qu'on puisse lire dans Jean chapitre 5, versets 19 et 20, la relation que Jésus avait avec le Père et de quelle façon Jésus fonctionnait. Jean chapitre 5, verset 19.
Johanna 19.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen.
Nuko Yesu asubira kubabwira ati nukuri nukuri ndababwire ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora kuko ivyo se akora vyose n'umwana aca bikora kuno kuko se akunda umwana akamwereka ivyo akora vyose ubwiwe kandi azomwereka ibikorwa biruta ivyo kugira ngo mwebwe mutangare.
Si je voulais paraphraser un petit peu ces deux versets,
nogrageza kuvuga mu majambo avunaguye imirongo,
je le dirais de la manière suivante.
Nobivuga muri ubu buryo.
Le Père aime le Fils
udata arakunda umwana
parce que le Fils obéit au Père.
Kuko umwana yumvira se.
Il recherche le Père.
Arondera ise.
Et je suis sûre que, parce que je n'étais pas là quand ça se produisait,
ndazineza nubwo atari narindiye,
je suis sûre que quand Jésus marchait sur cette terre,
ndazineza ko igihe Yesu yagendera muri
ino si, et qu'il était dans des temps de communion, dans des, quand il était dans des temps de prière, dans la présence du Père,
akaba ari mu bihe byo gusenga mu bwiza bw'Imana,
il n'était pas en train de crier, de raconter sa vie dans les moindres détails, mais il venait auprès du Père et il devait lui demander la chose suivante. Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi ce que tu désires. Parce que mon cœur et mon seul désir, c'est de faire ta volonté, c'est de te faire plaisir. Et je vous assure que quand on fait cette prière avec tout son cœur, on ne va pas la répéter pendant des heures, mais ça nous ouvre dans une dimension spirituelle. Et quand tu rentres dans cette dimension, juste parce que tu as dit, je veux te faire plaisir. Je veux faire ce que tu veux. Là, tu es tellement, tellement envahi par l'amour de Dieu, par sa présence, que tu peux rester même une heure comme ça, sans ne plus rien avoir à rajouter. Amen.
Amen.
Et c'est à ce moment-là que le Père commençait à montrer un certain nombre de choses à Jésus. Vous savez, Jésus est le premier. Il est le premier-né d'entre les frères. Il est le premier en toutes choses. Il nous a montré le chemin. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est de suivre le chemin. Moi, je remercie le Seigneur parce que comme ça, les choses sont faciles. Amen.
Amen.
Quand tu dois essayer de comprendre par toi-même comment est-ce que tu dois faire une chose qui n'a jamais été faite auparavant, ça peut être compliqué et difficile. Mais quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose que toi tu ne connais pas, tu n'as qu'à regarder comment il fait et faire la même chose. Nous n'avons qu'à regarder comment Jésus a fait et faire la même chose. Jésus dit, je ne fais rien. Je ne peux rien faire. Et ça, c'est une chose que certaines personnes ici, vous avez besoin de comprendre. Que vous ne pouvez rien faire. Mais rien faire. Rien faire de bien. Rien faire de puissant. Rien faire de spirituel par vous-même. Jésus l'a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen.
Amen.
Et heureusement d'ailleurs, parce que si nous pouvions faire des choses sans lui, nous serions en danger de tomber dans l'orgueil. Moi, je suis vraiment très contente, ravie de savoir que je ne peux rien faire. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe, inévitablement, je sais que ce n'est pas moi, que c'est le Seigneur. Et ça nous donne de la joie de voir le Seigneur agir. Amen. Donc Jésus lui-même est venu en premier lieu dans cette position de quelqu'un qui ne peut rien faire, afin de nous montrer à nous-mêmes qui ne pouvons de toute façon non plus rien faire, comment nous comporter pour que de grandes choses puissent se produire. Regardez au Père, écoutez le Père, s'approcher du Père et de lui dire: Père, je veux te plaire. Ma vie t'appartient. Elle n'est pas meilleure que celle de quelqu'un d'autre. Mais je la mets à ta disposition. Et je décide de rendre obéissant à ce que tu veux. Je vous assure que ça n'a rien à voir avec des mérites personnels. Vous savez, Dieu n'utilise pas les meilleurs. Il utilise les plus disponibles. Ceux qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne méritent rien, qu'ils ne sont pas meilleurs que qui que ce soit, mais qui disent: Seigneur, ma vie t'appartient. Je suis à toi. Se disponibiliser, vous savez, ce n'est pas forcément quelque chose de facile.
Amen.
Parce que nous pouvons toujours avoir des soucis, avoir des problèmes, avoir des besoins qui vont essayer de passer devant. Et mes frères et sœurs, ne laissez jamais ces choses passer devant vous. Parce que sinon, vous ne serez plus disponible. Vous serez rempli dans votre tête, dans vos pensées. Vous serez dans vos émotions complètement déstabilisées, jusqu'à oublier que vous êtes sur terre en mission pour servir le Seigneur. Et je vous assure que c'est dans ce domaine-là que le diable s'acharne et s'acharnera encore et encore. Mais quand on apprend à remettre toutes choses entre les mains du Père et à lui faire confiance: Seigneur, tu connais toutes choses mieux que moi-même. Ma vie t'appartient et je ne veux pas permettre à telle ou telle ou telle ou telle chose, je ne veux pas permettre à ces choses de me distraire, de me faire perdre ma disponibilité et de me décourager. Je vous assure que c'est là, c'est à ce niveau-là que Jésus puisait sa force, parce qu'il a vécu des choses que toi, tu ne vivras pas. Des choses difficiles qui venaient dans tous les sens. On le voit dans la vie de Jésus. On le voit dans la vie de l'apôtre Paul. Paul a eu mille et une raisons de se dire: bon, maintenant ça suffit. Avec tout ce que j'ai supporté, je pense qu'il est temps maintenant de rentrer chez moi, me reposer un peu, de prendre des vacances. Et Paul s'est rendu obéissant. Et nous pouvons nous rendre obéissants si nous comprenons l'amour de Dieu. Parce que je vous assure qu'il y a des choses qui, humainement, je ne sais pas qui peut les supporter. Il y a des choses qui, humainement, sont insupportables, qui sont difficiles, qui sont terribles. Mais quand on comprend l'amour de Dieu, on reçoit dans notre cœur la consolation et la guérison qui vont nous permettre de rester debout et de nous rendre obéissants. J'aimerais qu'on lise dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 29. Vous savez ce qui est important? c'est de vivre dans cette relation d'amour. Sinon, nous ne serons jamais capables d'obéir à Dieu. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voyez, il y a une interaction entre l'obéissance et la présence de Dieu. L'obéissance qui permet à l'amour de Dieu d'être déversé. Vous savez, nous les hommes, et il faut qu'on en sorte tous d'une façon ou d'une autre, nous avons besoin de béquilles. Et ces béquilles, c'est d'autres personnes sur lesquelles nous avons tendance à nous appuyer. Si je suis bien avec tel, alors je vais pouvoir servir le Seigneur. Par exemple, si je m'entends bien avec mon interprète, alors je vais pouvoir prêcher correctement. Mais si je ne m'entends pas avec mon interprète, il est en train de me cogner comme ça, alors ça m'est difficile. Je vous donne un exemple simple parce que c'est elle qui est à côté de moi et vous n'en faites pas, je m'entends très bien avec elle. Si je m'entends bien avec les musiciens du groupe de louanges, alors je vais pouvoir réussir à décoller dans la louange. Je vous donne un autre exemple. Il y en a d'autres ici, c'est au niveau des relations, au niveau du mariage ou des fiancés. Je suis très bien avec mon ou ma fiancée, alors je loue, je bénis le Seigneur. Mais si tu n'es plus bien avec lui ou elle, qu'est-ce que tu vas devenir?
Amen.
Je ne suis pas en train de prophétiser des malheurs, comprenez-moi bien. Mais si demain ton mari ou ta femme meurt, quelle sera ta relation avec Dieu? Et nous avons tous, je vous assure, tout le monde, on a besoin de savoir se dégager de ses béquilles. Si elle est là et qu'elle est bien, alors ça va. Vous savez, Jésus a vécu beaucoup d'opposition, d'attaque, de persécution. Mais ça n'a jamais nui à sa relation avec Dieu. Parce que sa relation avec Dieu, le Père, c'est ce qui comptait pour lui le plus. Parce que c'est de sa relation avec le Père qu'il tirait la force et la capacité d'obéir aux ordres du Père. Alors que quand on tire cette force des béquilles qui sont autour de nous, comme la Bible le dit, on s'appuie sur un roseau cassé et prenons garde que cela ne transperce pas notre main. Amen. Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et comme je vous le disais, obéir à Dieu, ça doit être inconditionnel. Seigneur, je vais t'obéir dans tel domaine. Si tu fais ça ou ça, si tu me facilites la vie, si tu me donnes telle ou telle chose, alors je vais t'obéir. Sinon, je ne vois pas comment je peux le faire. Nous devons prendre cette décision, se rendre obéissant et obéir par la foi. Vous vous rappelez du témoignage qui a été donné tout à l'heure? Elle a obéi à Dieu par la foi. alors que sa vie était en danger.
Amen.
Je parle d'Anita et son témoignage par rapport au diabète. Le médecin lui disait, fais-toi avorter parce que sinon tu vas mourir et le bébé aussi de toute façon. Mais elle s'est rendue obéissante à la parole de Dieu par la foi. Et elle a vu le miracle dans sa vie.
Amen.
Et je vous assure que parfois, tu peux obéir en pleurant.
Mais
il y a, oh alléluia, il y aura une telle présence de toi, de Dieu, pardon, sur toi, que tu te dis, après tout, ces choses n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est ma relation avec le Père. Ce qui est important, c'est de marcher avec le Père. Et ça, ça a été toute la vie de Jésus.
Et
il y a une chose par laquelle Jésus est passé et par laquelle tu ne passeras jamais. C'est la croix. Et vous savez, on a tendance à un petit peu se dire, mais c'est Jésus, pour lui ce n'était pas difficile. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Luc, chapitre 22, versets 40 à 44. La croix a été quelque chose d'extrêmement difficile pour Jésus. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. 40, verset 40 jusqu'à
44. Ashitse aho hantu arababarira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Atandukana nabo ashika ahatoregwa ahotegwa ibuye arafuka marasenga ati data asangwa ubigomba kuri iki gikombe kindengane ariko ntibibe nkuko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba umarayika aramwiyereka avuye mu ijuru amuha intege arushirije kwicwa n'umubabaro ashishikara gusenga cyane icyuya ciwe kiba nk'ibitonyanga binini by'amaraso bitonyanga hasi.
Qui sait que la croix était la volonté parfaite du Père? Oh là, il y en a qui ne savent pas, on va prier pour vous. Aidez-moi un peu, qui sait que la croix c'était la volonté du Père? Amen.
Amen.
C'était la volonté parfaite du Père. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qui pense que la croix a été faite pour piétiner Jésus? L'écraser, le faire souffrir, juste pour lui faire du mal. Qui peut croire cela? Personne. Il y avait un but dans la croix. Et le but de la croix, c'était le salut de tous les hommes. C'était la provision de guérison. La provision matériel et dans tous les domaines pour que l'homme puisse retrouver sa dignité. Marcher avec Dieu et le servir. Amen. Mais la croix a été un chemin de souffrance. Et Jésus, lorsqu'il est devant la croix, il n'est pas en train de danser de joie. Amen.
Amen.
Et ça nous montre que Jésus était un homme comme nous. Ou que nous sommes des hommes comme lui. Avec des pensées, des émotions et une volonté. Et que Jésus, devant la croix, a subi des angoisses. Je t'assure, mon frère, ma sœur, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux voir des miracles, des choses extraordinaires, le réveil qui vient, tu dois apprendre à voir les choses de ces cette manière-là. Chaque grande manifestation, chaque grande guérison, chaque grand miracle a un prix de souffrance. Parce que ça bouleverse le monde spirituel. Parce que tant que le diable sera sur cette terre, ça va l'amener à réagir ou à agir, à essayer de détruire.
Mais
moi, je vous assure que ça en vaut la peine. Parce qu'il y a un résultat. Amen. Et ce n'est pas parce que Satan s'en prend à notre petite personne. C'est juste que Satan déteste Dieu et veut empêcher la manifestation de l'œuvre de Dieu. Donc, Jésus s'est rendu obéissant. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, il aurait pu dire non, vraiment là c'est trop. Ça va trop loin. Qui peut vivre ça? Qui peut supporter ces choses? Et Dieu a envoyé un ange qui lui est apparu pour le fortifier. Et si Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus, sache-le bien. Fera la même chose pour toi si tu te rends obéissant. Amen. Ce n'est pas se rendre obéissant et être en train de souffrir tout seul, parce que ce n'est pas comme ça que les choses sont. Plus tu te rends obéissant, plus Dieu va se manifester, plus Dieu va t'utiliser, plus tu vas te trouver devant certains problèmes et certaines réalités, mais plus Dieu va t'envoyer des anges pour te fortifier. Peut-être que tu les verras, peut-être que tu ne les verras pas, c'est sans importance.
Amen.
Mais à chaque degré de difficulté, il y a une provision surnaturelle pour notre vie. Parce que, vous savez, le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Et il connaît nos limites. Et quand tu te rends obéissant, tu repousses tes limites. Et tu es capable de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire, non pas à cause de ta grandeur, mais à cause de la grâce de Dieu. Je veux qu'on termine en lisant dans Romains chapitre 5 verset 19 ce que l'obéissance de Jésus a produit pour nous, chacun d'entre nous, ce pourquoi nous lui devons une reconnaissance éternelle. Romains chapitre 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen.
Kandi nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi bacika abanyavyaha, niko kuyumvira kumwe bizotuma benshi bacika abagororotsi.
Parce que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous avons été rendus justes. Et je pense qu'on peut vraiment de tout notre cœur remercier le Seigneur et prendre une décision. Je choisis aujourd'hui de me rendre obéissant. Vous savez, c'est un choix que nous pouvons faire à long terme. Mais nous devons le renouveler jour après jour. Quand nous nous trouvons face à certaines circonstances, quand nous nous retrouvons face à certaines tentations, à certaines déceptions, à certaines trahisons, nous devons renouveler notre obéissance.
Amen.
De le proclamer. Voilà ce qui est arrivé, je le sais, je le vois, je le comprends. Mais malgré cela, j'ai décidé de continuer de marcher avec Dieu, de me rendre obéissant, de lui plaire et de le rechercher, de me nourrir de sa présence, de recevoir sa consolation et son réconfort, d'être fortifié parce qu'il a envoyé un ange à Jésus dans les moments difficiles. Et il le fait également pour moi de la même manière. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as montré le chemin, Jésus. Tu t'es rendu obéissant. Tu as marché dans l'humilité et dans la soumission. Tu n'as jamais montré d'orgueil ni d'arrogance, mais tu t'es humilié. Tu t'es rendu obéissant. Tu as eu toujours les yeux fixés sur le Père, désir de lui plaire, de faire ce qui lui est agréable. Et c'est pour ça que le Père t'a montré de grandes choses, des œuvres plus grandes qui ont étonné les disciples de cette époque. Nous aussi, Seigneur, nous voulons nous rendre obéissants. Nous voulons te plaire. Quand c'est facile et quand c'est difficile, quand ça nous convient ou quand ça ne nous convient pas, voulons nous rendre obéissants. Nous voulons vivre, nous épanouir dans la présence et dans l'amour du Père. Oh, nous voulons avoir cette vision des œuvres que le Père veut faire jour après jour, être dirigé vers des œuvres spéciales, afin que Jésus soit glorifié dans nos vies et dans cette église. Nous ne voulons pas craindre les difficultés. Nous ne voulons pas craindre la souffrance. Mais nous voulons nous rendre et nous garder disponibles en tout temps et en toutes circonstances.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.